www.radioscoop.fr.
18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Nolwenn Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux de vous recevoir dans Passion Classique. Vous êtes un peu chez vous ici parce que parmi toutes les chanteuses de variété, j'ai l'impression que quand on a votre voix et votre technique et votre sensibilité très particulière, on ne peut que plaire aux amateurs de musique classique. Est-ce que je me trompe ?
Merci, merci beaucoup, venant de vous et puis en étant ici à Radio Classique, c'est extrêmement touchant d'entendre ça, mais c'est surtout, j'ai une formation classique.
C'est ça.
C'est comme ça que j'ai commencé, que tout a débuté pour moi, que là, cette passion pour la musique, à l'origine, c'était mes années au conservatoire et le violon, le chant classique par la suite, et mon destin un peu basculé par la suite, mais effectivement, c'était toute ma vie, toute mon adolescence, et c'est vrai que j'aurais pu continuer dans cette voie-là, et parfois je me pose la question, mais c'est vrai que...
Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas devenue chanteuse classique ?
Qu'est-ce qui fait, mais justement, le destin, le fait... En fait, je suivais des cours au conservatoire de Saint-Yor, ensuite l'école de musique de Saint-Yor, tout a commencé là-bas, ensuite le conservatoire de Vichy, et puis après j'ai tenté le concours du CNR de Clermont-Ferrand, en classe de chant. Parallèlement, j'étais en fac de droit à Clermont-Ferrand. Et puis un jour, j'ai eu cette envie de me filmer, d'envoyer cette cassette à un casting qui était organisé pour un célèbre radio crochet.
Astarac.
Ouais, je me disais que c'était peut-être intéressant de voir ce que l'on pensait de ma voix finalement à Paris, parce que parfois on a l'impression d'être, lorsque l'on vit en province ou dans des plus ou moins petites moyennes villes, on te dit toujours que tu chantes très bien, que tu as un super niveau, que t'es fabuleux, puis après quand tu te confrontes aux autres à Paris ou dans d'autres plus grandes villes, mais c'est le cas aussi d'ailleurs dans certains conservatoires. Après parfois c'est un peu plus difficile. Donc c'était cette envie de challenge et puis de voir un peu quels étaient les retours. Mais je l'ai fait un peu, pas pour rigoler, mais c'est vrai que c'était un challenge. Et puis on m'a répondu. Donc je me suis filmée dans la salle de bain parce que c'était la pièce à maison où l'acoustique était la meilleure. J'ai chanté une chanson, justement un extrait de Carmen, il me semble. Et puis on m'a répondu et c'est là où je suis montée à Paris. Il y a eu le premier casting.
Vous avez été choisie à la Starac sur un extrait de Carmen.
Sur un extrait de Carmen. Alors dans la salle de bain, il me semble que c'était du Piaf. Et ensuite, après, lorsque je suis arrivée dans les locaux, c'était en chantant du Carmen. Et alors pour la petite histoire, après j'ai été rappelée une nouvelle fois pour la deuxième phase du casting. Et à ce moment-là, c'est là où donc Pascal Nègre m'a redemandé de chanter cet extrait de Carmen, parce que là c'est le choix de chanson était différent pour la deuxième phase du casting. Et
je crois quoi,
c'était je sais plus, j'avais chanté la deuxième phase, c'était une chanson de variété qui n'était pas d'ailleurs forcément dans ma tonalité, et à ce moment-là j'avais pas trop brillé. Et à ce moment-là, Pascal Nègre, qui était là depuis le tout début, depuis la première phase du casting, m'a dit: mais dis donc, c'est pas vous qui aviez chanté un extrait, c'est la Banera, enfin c'est voilà. Il m'avait dit: est-ce que vous aviez bien chanté un extrait de Carmen, vous voudriez pas le rechanter à nouveau? Et j'ai rechanté Carmen, et c'est là-dessus que j'ai été sélectionnée, parce que justement je représentais un peu, enfin je pense que j'étais un peu l'anti-candidate à ce moment-là, justement étudiante et ayant suivi une formation classique, et finalement je crois que je rentrais un peu dans une case finalement dans ce genre de programme et de radio-crochet qui était un peu intéressante, je pense, pour eux. Et puis voilà, j'ai également fait la rencontre d'Armand Altaï aussi, qui a été une rencontre très importante dans ma vie, parce que c'était justement une professeure de chant extraordinaire qui m'a vraiment beaucoup apporté, et qui était un peu de, comme je dis souvent, un peu de finesse dans ce monde de brut. C'est aussi peut-être elle qui m'a donné l'envie d'envoyer cette cassette, parce que je me disais que si quelqu'un comme elle pouvait participer à toute cette aventure-là, c'est forcément qu'il y avait du bon là-dedans, parce qu'elle a une formation tellement différente, et c'est quelqu'un qui était tellement hors du système, que je me disais...
Avec un côté oriental en plus.
Absolument,
donc,
voilà. Et puis complètement, enfin, c'est quelqu'un qui rentre pas dans le...
Ouais,
c'est ça
cases.
Que j'adore, ouais. et chez elle,
norme.
Et puis absolument, et puis tellement brillante, et puis tellement musicienne extraordinaire, donc ouais. Voilà comment tout a commencé. Donc effectivement, c'est justement cette formation classique qui a tout changé pour moi, et après, à ce moment-là, je me suis dit, si le destin, alors qu'il y avait tellement, il y a tellement d'appelés, et si peu d'élus dans ce type de musique-là, pour, enfin, moi, j'avais pas de connexion à Paris, j'avais pas de piston, rien, j'arrivais de l'Auvergne à ce moment-là, et si ça marche, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière et il faut poursuivre. Donc effectivement, après, ben, j'ai abandonné, j'ai mis de côté, on va dire, j'ai mis de côté le conservatoire par la force des choses.
Oui. Nolwenn Leroy, je vous écris une petite lettre.
Ah.
Puis-je vous la lire ?
Absolument.
Cher Nolwenn Leroy, j'ai lu quelque part que votre voix provoquait du bien-être et que cela avait même été prouvé scientifiquement. Je peux ajouter que vous regarder n'est pas non plus une source de souffrance insupportable. Je ne suis pas un scientifique, juste un amateur. Je pense qu'il y a trois raisons à cela, sur le fait que votre voix fait du bien. D'abord, c'est une question de timbre. Le vôtre a quelque chose de crémeux, de velouté. Ensuite, il y a une fabuleuse technique classique chez vous, adaptée à votre voix, à votre tempérament, un legato naturel. Donc, voix crémeuse et legato, cela nous donne legato à la crème, comme si nous étions dans une pâtisserie de luxe. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut vous écouter toute la journée sans prendre un seul gramme. Et comme en plus vous êtes du signe de la balance, on est tranquille. Troisième raison, il y a quelque chose dans votre sensibilité qui fait du bien. La balance y est peut-être aussi pour quelque chose, parce que vous cherchez l'harmonie et vous la partagez. On sent que vous êtes construite, que vous êtes construite dans une recherche d'équilibre entre l'ombre et la lumière, et l'envol de votre voix, s'il va très loin, reste toujours attaché à un centre de gravité. Je pense que vous auriez été une négociatrice hors pair dans des conflits compliqués. La diplomatie a peut-être perdu une ambassadrice de choc, mais l'art a gagné une missionnaire et même, disons-le, une religieuse. Crème dans la voix, chou dans le caractère, c'est pour mieux vous manger, mon enfant.
Merci beaucoup. Wow.
Voilà ce que je voulais vous dire.
C'est magnifique.
Ce soir.
Merci beaucoup.
Mais
pour tous ces magnifiques compliments.
C'est vrai, mais vous savez, ce ne sont pas uniquement des compliments, parce que je sais que vous avez, on va en juger tout à l'heure, mais Renaud Capuçon, par exemple, vous a choisi pour son disque cinéma, on va en entendre un extrait tout à l'heure, et il y a une très grande cantatrice aussi qui m'avait parlé de vous. Mais ça, nous en parlerons tout à l'heure. Tout d'abord, vous avez choisi Maria Callas, ce soir. Pourquoi la Mamma Morta?
Parce que c'est mon idole absolue. C'est dans sa façon de concevoir la musique, le chant, de servir les plus grands compositeurs, de mettre sa voix au service des œuvres qu'elle a pu chanter. Ce que j'ai essayé de faire d'une certaine manière, c'est très différent, mais à travers cet album folk, où ce sont des reprises, c'est de mettre ma voix, ma sensibilité au service de ces grandes chansons françaises, d'essayer d'être le plus juste possible. Et puis dans l'émotion aussi, dans sa sensibilité, dans tout ce qu'elle a pu donner, cette tragédienne extraordinaire qu'elle était, et à fleur de peau. Et c'est pour moi la représentation absolue de la chanteuse et de ce que l'on doit ressentir et mettre dans son chant. C'est la justesse de l'émotion et ça me bouleverse, et justement dans le métier que je fais aujourd'hui, souvent on parle du fait que l'on doit être initié pour apprécier l'opéra, la musique classique, et c'est vrai que pour moi, Maria Callas, c'est justement
on n'a pas
besoin d'être initié pour être bouleversé et touché en plein cœur par la justesse de cette émotion et par la force de ce qu'elle donnait dans son chant, et on est forcément touché, et ça c'est je trouve que c'est il y a quelque chose de magique et de que l'on ne peut expliquer finalement, et qui n'a rien à voir avec la technique justement. C'est ce petit supplément d'âme qu'elle apportait dans ses interprétations. Ouais.
E intorno il nulla, come miserio, il bisogno, il periglio, cattiva lava, e bir si muore pura di sua bellezza, ho fatto il mercato un contratto per me.
Morta, Maria Callas, c'est votre choix, Nolwenn Leroy. C'est une chose que vous pourriez chanter, ça, cette Mamma Morta.
Chanter dans quel sens? Par rapport au sens du texte ou par rapport à...
Chanter, tout simplement.
Ah non, chanter cette chanson.
Oui.
Bah, vous savez, moi j'ai toujours eu... du mal à... Je sais que ça s'est fait beaucoup ces dernières années. Beaucoup de chanteurs de variété, de pop, chantent du classique et des chanteurs du classique.
Chantent. Ouais.
Pour moi, justement, pour moi, c'est deux métiers presque différents.
Vous avez trop de respect.
J'ai trop de respect pour les artistes lyriques et pour le travail et l'engagement. C'est autre chose.
Parce que vous avez une formation classique.
Absolument.
Donc vous savez.
Je sais ce que ça représente, voilà. le travail, et tout ce que cela représente. C'est pour moi, enfin, je dis pas qu'on fait rien dans la variété, mais c'est incomparable de chanter un opéra de 4 heures et de faire un concert de 2 heures. Je dis pas que c'est moins bien, mais c'est juste que c'est pour moi, c'est deux métiers différents. Et d'ailleurs.
D'abord, on chante sans micro quand
absolument.
On est à l'opéra.
Mais d'ailleurs, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi difficile pour certains chanteurs de variété parfois de chanter du classique que pour certains artistes lyriques que de s'attaquer à des chansons.
Oui, parce que c'est une technique
française.
Différente.
Absolument. Ouais. Et puis tout ce qui va avec toute l'interprétation. Encore une fois, ce que l'on met dans son chant et parfois justement ce ce surplus de techniques vient parasiter justement certains.
Alors, justement,
c'est complexe. Hein.
Justement, Nolwenn Leroy, comme vous étiez au début formaté dans un moule académique, mm-hmm. hein, piano, violon, chorale, chant, oui. est-ce que ça n'a pas été peut-être plus long pour vous pour trouver une certaine liberté ?
Absolument. Mais ça a été au début, c'est vrai que j'avais toujours cette volonté de bien faire, de faire, de refaire toujours, de la perfection toujours. Mais c'est vrai que ce que j'appréciais dans la musique que je pouvais écouter, que ça soit la folk ou autre, c'est ces petites imperfections justement qui amènent l'émotion. Je ne les tolérais pas dans mon interprétation et il me manquait quelque chose et j'avais du mal à réussir à identifier qu'est-ce que c'était, quelle était cette chose qui me manquait et au fil de ces dernières années, finalement j'ai compris que c'était peut-être ça, c'était peut-être toujours le fait de me dire que techniquement bien sûr je pouvais mieux faire, bien sûr je pouvais refaire cette prise, mais que finalement et c'est comme ça que j'enregistre aujourd'hui, je fais jamais plus de 4-5 prises grand maximum parce que la première prise, bon, on se chauffe. La deuxième prise, en général, c'est celle que l'on garde. La troisième, on commence déjà à vouloir corriger, essayer de mieux faire. Et puis la quatrième, après, on perd ce côté instantané et cette vérité. Et ça, c'est toujours, c'est quelque chose aujourd'hui que je m'efforce parce que c'est vrai qu'en studio, parfois aussi, bon, il y a plein de techniques qui font qu'on peut prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là pour faire la meilleure prise du monde. Ça ne sera jamais la meilleure prise du monde. La meilleure prise du monde, c'est, comme je le disais tout à l'heure avec Maria Callas, c'est celle où l'émotion est la plus forte. Et c'est vrai que cette émotion-là, elle se produit pas à chaque prise.
Oui, parce que ce qu'on recherche, l'émotion, c'est la fragilité.
Bien sûr.
Si on a une armure qui est trop rutilante et trop parfaite, l'émotion passe pas.
Ouais. Et moi, c'est ce que j'appréciais justement chez Maria Callas, mais qui était décrié justement parfois de par parfois certaines fautes qui auraient pu avoir justement technique, ou parfois on la reprenait. Mais justement, ce qui fait qu'aujourd'hui elle reste comme certainement une des plus grandes voix de l'histoire, c'est justement parce que le plus important, je pense, ça a toujours été l'émotion. Et pour moi, c'est ce qui reste, c'est le plus important.
Nolwenn Leroy, c'est le septième album là qui vient de sortir, qui est sorti l'année dernière, qui s'intitule Folk, avec une pochette magnifique, avec des fleurs. Vous avez un petit air d'Isabelle Adjani, on a dit déjà vous le dire.
Décidément, c'est ma soirée, c'est avec que des compliments.
Je ne vais pas vous dire que vous ressemblez à Maïté, vous ressemblez plus à Isabelle Adjani qu'à Maïté, excusez-moi.
Mais écoutez,
c'est objectif.
Mais c'est aussi une autre idole, Isabelle Adjani, mais une pochette sur le qui est c'est ma maman qui s'occupe de toute l'identité visuelle, qui accompagne mes projets depuis mes débuts, que ce soit les clips ou les pochettes d'albums, et cet album effectivement a été conçu autour du végétal. Histoire naturelle auparavant était autour du animal, après il y a eu l'océan avec Au fil de l'eau, et puis maintenant le végétal, voilà. Donc c'était tous mes hortensias de Bretagne.
Je parlais de ce centre de gravité, mais j'ai l'impression qu'il est important pour vous parce que vous êtes bretonne, vous êtes née dans le Finistère, et il y a eu tout un album où vous êtes revenue à vos racines bretonnes. Le folk, là aussi, ce sont des chansons de Yves Simon, de Nicolas Perrac, donc c'est aussi... C'est en vous, c'est dans vos racines, c'est ce que vous avez écouté quand vous étiez jeune. Et le côté folk, il y a quelque chose aussi d'une recherche de racines, d'authenticité.
Bien sûr, mais je crois que c'est ce qui caractérise ces chansons. Bien sûr, la musique celtique, enfin bretonne, sont les bases de la musique folk en France. Et effectivement, je crois que c'est ce que j'aime aussi dans toute cette musique folk, c'est qu'elle est intemporelle et que ce sont des airs qui ne vieillissent pas et qui sont parfois très très simples ou très simplement enregistrés, une voix, une guitare et toujours cette même émotion. C'est vraiment ce que j'apprécie dans ce style de musique, et on en revient toujours à la même chose. Mais c'est vrai que s'il y avait certainement une musique qui devait m'accompagner pour toujours. Je pense que ce serait celle-ci. Et j'ai adoré enregistrer ces chansons. C'est vraiment toutes des chansons qui font partie de... Pas vraiment de mon enfance, parce que moi, je suis arrivée après. Mais qui sont des classiques. Et c'était vraiment un plaisir de les chanter.
Comme voix, vous seriez plutôt mezzo-soprano ?
Plutôt mezzo, oui. Ouais. En tout cas, c'est ce que je chantais lorsque j'étais... pas totalement mezzo, parce que peut-être... Mais c'était quand même des airs, en grande partie, ouais, de mezzo que je chantais. Mais c'est vrai que souvent, aujourd'hui, c'est vrai que je me dis que je travaille ma voix différemment. Et je me suis un petit peu éloignée, justement, de ce que je pouvais faire lorsque j'étais au conservatoire, justement, pour explorer finalement toutes les autres facettes aussi de ma voix, et parfois certains réflexes que je pouvais avoir, que j'avais pris lors de mes cours de chant classique, venaient un peu parasiter mes interprétations de toutes ces chansons-là. C'est ça qui est un peu complexe à comprendre.
Qu'est-ce que vous cherchez dans Loin de le Roi ? Des couleurs ?
Des couleurs différentes, aussi la place que je laisse aussi au souffle.
Ouais.
Le timbre, c'est vrai que c'est très subtil, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'arrive à doser ça, c'est certainement imperceptible pour certains, mais moi je vois vraiment une évolution dans ma façon d'interpréter à mes tout débuts il y a 15 ans et aujourd'hui je vois vraiment une différence.
C'était plus raide et maintenant plus souple.
Raide, plus scolaire aussi.
Ah oui.
Plus j'ai l'impression aujourd'hui d'être plus libre et d'être de mieux me connaître, forcément, que ma voix est plus... d'être plus solide aussi, d'une certaine manière. Je pense que j'étais aussi quelqu'un qui somatisait beaucoup. J'étais toujours angoissée, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était très, très compliqué. J'avais... toujours des angoisses par rapport à ma voix. On dit souvent que si les chanteuses ne devaient chanter que lorsqu'elles sont en voix, elles ne chanteraient jamais. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me caractérisait un peu. Pour être sûr que lorsque j'arrivais à un concert ou à une audition, j'étais toujours à faune. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris à dompter aujourd'hui. Et je me sens mieux avec moi-même et avec ma voix. Et je me sens plus en confiance. Et c'est normal, plus le temps passe, et forcément, c'est logique.
Nolwenn Leroy, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première.
Depuis hier, je cherche en vain. Est-il encore chez vous, mes seigneurs capillaires? Voyons un peu si vous dignes voler à ma voix ce matin. Oserons
Marianne Crébassa qui, sous la baguette Marc Minkowski, interprète l'air de Stefano, de Roméo et Juliette, de Gounod. Stefano, c'est le page, enfin, le serviteur de Roméo. Et vous avez chanté pratiquement tout le temps. C'est dommage qu'on n'ait pas relevé le micro.
Oui, c'est
là.
Un souvenir extraordinaire. Je pense à Mme Berthaud Fontani, qui était ma professeure de chant au conservatoire de Vichy et qui m'avait fait chanter cette chanson pour le spectacle de fin, l'audition de fin d'année. Et c'était la chanson que j'ai chantée pour mon entrée au CNR à Clermont-Ferrand pour le concours et qui m'a fait rentrer au CNR. Voilà. Donc c'est vraiment plein de bons souvenirs, et c'était tellement important pour moi, parce que j'ai attendu longtemps. Je suis partie entre ma seconde et ma première, je suis partie étudier un an aux États-Unis. J'étais sponsorisée par un organisme, on m'a choisie pour partir dans un lycée américain, donc j'avais pris
dans
une année...
Dans l'Ohio,
absolument. Et donc j'avais 15 ans là-bas, j'ai fêté mes 16 ans aux États-Unis, et je savais qu'en rentrant, je commencerais le chant. Il fallait attendre que ma voix soit vraiment bien, d'avoir ma voix d'adulte, et on ne peut pas commencer le chant trop tôt. Et c'est vrai que ça a changé ma vie. Et la professeure, donc Madame Berthaud Fontani, professeure que j'avais au conservatoire de Vichy aussi, m'a accompagnée de la meilleure des façons, était extraordinaire. Et elle a joué un grand rôle aussi dans cette passion que je pouvais avoir pour le chant. Et je pense à elle aujourd'hui.
Nolwenn Leroy, si vous êtes venue dans le centre de la France, je crois savoir que c'est après le divorce
Absolument.
De vos parents. Mmh. Et donc, c'est à ce moment-là que vous avez commencé la musique. Moi, je me suis dit, est-ce que la musique n'est pas venue dans votre vie pour combler, justement, une sorte de déséquilibre, enfin...
Mais totalement. De déséquilibre, je sais pas, parce que c'est vrai que j'étais quand même bien entourée. Je suis partie vivre avec ma maman chez ma grand-mère maternelle, qui était enseignante, et je me suis inscrite en classe de violon sur les conseils de ma professeure de musique au Collège des Célestins, Madame Brun, qui me disait que j'avais une bonne oreille, que je chantais bien, que ça serait bien que je commence un instrument. Donc on n'avait pas les sous à l'époque pour avoir un piano à la maison, mais j'avais le violon d'étude de ma grand-mère. Et donc elle m'a prêté son violon, transmis ce violon. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé le violon à ce moment-là. Et ça a été, c'est vrai que la musique occupait tout mon temps, tous les mercredis, tous les week-ends. C'était le conservatoire. Et je crois que c'est venu, je crois que c'est vrai que j'ai vraiment commencé à chanter vraiment à ce moment-là, au moment de cette séparation et de ce, je pense que ça apaisait mes peines, et je crois que ça a eu un effet thérapeutique totalement. Vous parliez tout à l'heure des effets de la voix et de la musicothérapie. Moi, vraiment, ça m'a... Je me plongeais dans cette musique et ça me faisait tout oublier.
Parce que l'art, c'est quand même bien utiliser ses souffrances,
ouais.
Ses douleurs,
bien
ses,
sûr.
Ses fêlures.
Ouais.
Vers quelque chose de beau. C'est comme ça que ça peut parler aux autres, et que c'est comme ça que ça peut toucher. Donc c'est...
Bien sûr, mais moi, c'est vraiment cette... C'est certainement d'ailleurs ce qu'ont en commun, oui, beaucoup d'artistes, c'est vrai, la musique arrive à un moment donné de leur vie, et ce n'est pas un hasard, et moi, c'est vrai que c'est je pense... Il n'y avait pas vraiment de déséquilibre, c'est un effet extrêmement réconfortant et puis une direction. Ça me donnait une direction de vie, une rigueur aussi, bien que j'ai jamais travaillé assez mes instruments, jamais autant que je pouvais travailler ma voix, parce que ça a toujours été la voix, enfin ma voix et le chant, ma passion première, bien plus que les instruments. Mais c'est vrai que souvent on me dit, est-ce que mes parents étaient musiciens ? Pas forcément, ma maman était artiste, elle fait l'école du Louvre, mais elle n'était pas forcément musicienne, même si elle écoutait beaucoup de musique. Mais je crois que c'est vrai que c'est arrivé à ce moment-là. Je faisais un petit peu de musique avant, plus jeune, mais je m'étais inscrite au conservatoire d'ailleurs à l'époque à Guingamp, lorsque j'étais encore en Bretagne. Mais à l'époque, on devait commencer le solfège et faire quelques années de solfège avant de commencer l'instrument. Et c'est vrai que c'était un peu abstrait pour moi, lorsque l'on est enfant, de faire du solfège pour faire du solfège. Lorsque l'on est très jeune, c'est quand même, c'était compliqué.
Mais vous tenez aussi de votre père, footballeur professionnel, parce qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement l'élément physique, mm-hmm. et puis une lucarne, bah, c'est comme un si bémol, hein. il faut l'atteindre.
Ouais, mais une sensibilité, peut-être que je pense les sportifs professionnels, enfin si, oui. certains l'ont, mais bon là, je sais pas, je dirais peut-être pas jusqu'à dire ça quand même. Hein. Une subtilité différente.
Nalouane Leroy, voici votre deuxième petite madeleine musicale. Children's Corner, que Claude Debussy a écrit pour sa fille Chouchou, et ça c'est le tout début, Docteur Gradus ad Parnassum, où il se moque avec admiration de Clémenti. Vous l'avez joué ça?
C'est ma petite sœur qui l'a joué, c'est pour ça que c'est ma madeleine, parce que moi mon premier instrument était le violon, et j'avais un niveau de piano juste assez pour pouvoir m'accompagner en chant, mais ma petite sœur, son premier instrument c'est le piano, parce que par la suite on a eu un piano à la maison, bien plus tard, et ma petite sœur a commencé le piano et jouait cette air, et j'ai une passion pour Debussy et cette air, je revois ma petite sœur jouer cette air sans cesse, et c'est fou à quel point d'ailleurs aujourd'hui elle joue beaucoup moins, et bon, elle a un peu mis ça de côté forcément, et d'ailleurs vous parliez tout à l'heure de pâtisserie, elle est pâtissière maintenant,
donc vous voyez, c'est fou ça,
à quel point tout se rejoint,
et c'est un métier de haute précision.
Absolument,
la pâtisserie,
hein. Donc maintenant elle est pâtissière, mais c'était une très très bonne instrumentrice, très bonne pianiste.
Vous pourriez chanter, elle était pâtissière dans la rue du Croissant.
Exactement, et elle jouait cet air magnifiquement bien, alors pas ce tempo-là, pas tout à fait, mais un peu plus lentement, mais c'était somptueux, et d'ailleurs, c'est fou à quel point on a une mémoire des doigts, parce qu'elle joue plus du tout aujourd'hui, et lorsqu'elle se met devant un piano, elle le rejoue, elle s'en souvient, enfin ses doigts s'en souviennent.
Et vous pourriez faire quelque chose ensemble, c'est-à-dire qu'elle pourrait vous accompagner dans une mélodie de forêt.
Mais je sais, peut-être, oui, peut-être à l'occasion. Il faudrait que je lui lance ça comme challenge un jour de faire quelque chose ensemble pour rigoler comme ça sur scène. Mais elle avait fait les chœurs sur ma chanson que j'avais enregistrée dans le studio auprès de Laurent Voulzy sur l'album Histoire Naturelle sur Nalouane Oho. Elle avait gentiment accepté de faire les chœurs derrière, mais le piano pas encore. Ça peut être une idée.
Nalouane Leroy. C'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme avec des surprises.
Un tiers des Franciliens ont pour projet d'acheter un logement au sein du Grand Paris. Ils pourront avancer avec les notaires du Grand Paris. Notaires du Grand Paris, avançons ensemble. Et avec les notaires du Grand Paris, retrouvez chaque matin Michel Grossior à 7h25 pour les titres de la presse et à 8h30 pour la revue de presse sur Radio Classique.
Je m'appelle Caroline Métro et je recrute avec LinkedIn Jobs. Nomade Education développe des apps gratuites pour collégiens, lycéens et étudiants. J'ai posté sur LinkedIn Jobs pour recruter un développeur mobile et j'ai trouvé la candidate idéale, Christine. Elle a une grande expérience en développement d'interface et nous partageons la même ambition, faire grandir l'éducation en France.
LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com/publier. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com/publier.
La saison musicale des Invalides vous présente la symphonie numéro 1 de Mendelssohn et le concerto numéro 4 de Beethoven. Le 31 janvier prochain, venez écouter le grand pianiste Franck Braley dans l'interprétation bouleversante de ce célèbre concerto, en soliste avec l'orchestre de Picardie, placé sous la direction d'Harry Evenbeck. Réservez dès à présent vos places pour le 31 janvier sur saisonmusicale.musée-armée.fr avec le soutien de son grand partenaire, le CIC.
En janvier et février, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg présente le cycle Chostakovitch, une série de 6 concerts exceptionnels dédiés aux plus énigmatiques des compositeurs russes. avec le deuxième concerto pour violoncelle, interprété par Jean-Guillaume Keras, et les symphonies numéro 13, 14 et 15. Le cycle Shostakovich avec Jean-Guillaume Keras et l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Marco Lettonia, du 24 janvier au 8 février au Palais de la Musique et des Congrès à Strasbourg.
Du 17 janvier au 2 février, les ventes privées Seat sont de retour. Les ventes privées, allons, vous savez. Ah, peut-être n'avez-vous pas été invité, suis-je sotte. Les ventes privées, ce sont des offres d'exception sur des véhicules neufs disponibles tout de suite. Alors cette fois-ci, faites partie des privilégiés et inscrivez-vous vite sur Seat.fr.
Offre particulière pour toute commande d'un véhicule disponible sur le site des ventes privées Seat avant le 2 février selon stock. Inscription et conditions sur Seat.fr.
Ah, si votre partenaire Seat vous y a déjà convié, inutile d'écouter ce que vous venez d'entendre.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy.
Nolwenn Leroy, merci encore d'être là ce soir en direct dans Passion Classique, je le précise, à l'occasion de la sortie de ce disque magnifique qui s'intitule « Folk ». Et à l'occasion aussi de concerts, on pourra vous retrouver au Trianon à Paris les 26 et 27 mars et ensuite une grande tournée dans toute la France. Mais vous êtes aussi une artiste internationale, j'ai découvert ça.
Oui, enfin, si on veut, parce qu'en France, c'est vrai que c'est toujours compliqué de travailler l'export. C'est pas toujours évident. Mais oui, je vais à un concert aux États-Unis, un concert. Enfin, il y a des. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Ayant justement vécu aux États-Unis oui. Un an, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir aller chanter un peu partout. Mais c'est vrai que c'est pas évident pour les artistes français. On pourrait imaginez qu'aujourd'hui tout est plus simple avec pour faire découvrir sa musique au plus grand nombre, mais voilà, il y a plein d'éléments qui entrent en compte qui font que c'est pas si simple.
Nolwenn, ça veut dire quoi en breton? Agneau.
Agneau blanc.
Agneau blanc.
Oui, il y a un côté très très doux, très. C'est parce que c'est pas forcément d'ailleurs. Enfin, j'ai plutôt du caractère et je pas forcément douce, toujours douce comme un agneau, pas vous, toujours.
Vous avez un côté loup aussi.
Plutôt loup, oui. Plutôt loup, voilà, une part d'agneau et une part de loup en moi.
Ouais, très ouais. Bien.
Absolument.
Alors nous allons. Il y a normalement une séquence dans cette émission qui est musique portrait, mais j'ai découvert ce que vous avez enregistré avec Renaud Capuçon. Et je dois dire que j'en ai eu la chair de poule. Alors je me suis dit, ça va être ça, le portrait. Parce que finalement, Nolwenn Leroy face à Renaud Capuçon, on a l'impression que vous parlez le même langage. C'est Calling You, de Bagdad Café. Mm-hmm. Donc, une musique... Alors évidemment, on peut dire que c'est de la variété, mais avec le violon de Renaud et vous, votre formation classique aussi, ça devient quelque chose de véritablement... mais je vais arrêter de dire que je
mais non, mais c'était un exercice qui était vraiment c'était difficile parce que de se retrouver je suis allée à Bruxelles, je me revois rentrer dans cet auditorium magnifique avec Renaud Capuçon qui était là avec le magnifique orchestre et de chanter, d'être face à lui, de se retrouver dans cette situation là où en général les enregistrements sont en studio et dans une petite cabine, là d'être dans cette si grand auditorium avec lui face à moi et enfin c'était vraiment, et puis ce grand orchestre, c'est pas les mêmes conditions pour enregistrer, c'était fabuleux, enfin, mais à la fois très troublant et très angoissant, en plus jouant du violon, enfin étant une piètre violoniste effectivement par rapport à Renaud Capuçon, c'était vraiment enfin voilà, j'étais un peu dans tous mes états ce jour-là, j'essayais de faire du mieux que je pouvais et je suis heureuse du résultat parce que c'est une expérience extraordinaire que de pouvoir mêler ma voix.
Vous êtes très, très modeste et on va en juger tout de suite. Vous avez un point commun, c'est que vous fermez les yeux tous les deux, lui quand il joue et vous quand vous chantez.
desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend. You hear me? I'm calling you. A hot, dry wind blows right through me. The baby's crying, and I can't sleep. We both know a change is coming. Coming closer, sweet release. Better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
Au sommet de leur art, on peut le dire, Renaud Capuçon au violon et Nolwenn Leroy, ici présente dans Bagdad Café. Vous vous écoutiez, vous arrivez à vous écouter en faisant abstraction de cet esprit critique qui est...
Ah non, c'est particulièrement ce qui me caractérise. Et
j'imagine.
C'est compliqué. Mais non, là, je me disais juste que c'est une grande chanson, une immense chanson et un immense violoniste et d'avoir eu la chance de pouvoir mêler ma voix au son de son. voilà, de son instrument, de son violon, mais la façon dont il joue et l'artiste que c'est quelqu'un de, c'est fabuleux parce qu'il m'a appelé, il me dit voilà, moi je joue, je travaille sur ce projet, je joue tous les thèmes de mes chansons, musique de film préférée. Il y a une chanson où j'aimerais qu'une voix intervienne, c'est cette mélodie de Bagdad Café qui est, enfin c'est quand même très périlleux et on l'entend rarement chanter par d'autres parce qu'elle est tellement tellement connue avec cette voix de cette chanteuse magnifique. Et c'était bon, et c'est un exercice pas évident. Et en plus dans ce contexte-là, voilà, ça rajoutait de la difficulté. Et je lui ai dit oui tout de suite parce que c'est une chanson que j'adore et puis pour voilà parce qu'on se connaissait aussi et que c'était tellement fabuleux pour moi de participer à ce projet. Mais je crois que je n'avais pas conscience au moment où j'ai accepté à quel point j'allais être angoissée par l'exercice. Et finalement, voilà, lorsque je réécoute, je suis heureuse parce que ça ne s'entend pas. Que le niveau d'angoisse à ce moment-là ne s'entend pas et ne reste que l'émotion et la musique et qui resteront gravées là sur cet enregistrement. Et je suis vraiment très très fière d'avoir participé à ce projet.
Nolwenn Leroy, il y a une très grande cantatrice qui vous aimait beaucoup, elle a disparu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, je travaillais à cette époque-là pour la chaîne Mezzo et l'idée c'était une émission qui s'appelait Dernière entendue et l'idée c'était de faire rencontrer deux artistes de
horizons différents.
Voilà, différents. D'accord. Il y a eu par exemple Roberto Lavinia et Carole Bouquet, bon, des choses comme ça. Et puis je voulais qu'il y ait Régine Crespin. Donc je suis allé la voir et je dis qu'est-ce que vous voudriez. Alors finalement on l'a fait avec Frédéric Mitterrand, c'était très bien, mais la première idée, quelqu'un m'a dit, j'aimerais beaucoup le faire avec Nolwenn.
Ah bon?
À cette époque-là, vous n'étiez pas encore Nolwenn Leroy, vous étiez Nolwenn, mais je crois que c'était le début, vous étiez dans des concerts, et je crois qu'il devait y avoir une pile de demandes qui n'ont pas été retenues par votre agent. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement, extrêmement touchant que, d'abord que Régine Crespin vous ait découvert, d'abord qu'elle a regardé la Starac.
Bien sûr, oui, parce que...
Non, ça montre son ouverture d'esprit.
Mais c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que souvent, on dit que ce sont deux milieux, deux mondes totalement différents et qui ne doivent pas se rencontrer par snobisme ou par c'est une certaine intelligentsia qui dit voilà il y a le mais moi je suis tellement ces deux mondes peuvent se rencontrer et puis interagir ensemble et c'est ce qui s'est passé justement lors de cette collaboration avec Renaud Capuçon, c'est ce que vous me dites là avec Régine Crespin. Bien sûr, pourquoi Régine Crespin n'aurait pas regardé? Et on peut être touché par des voix et du classique et de la variété. Une voix reste une voix et l'émotion, elle est universelle et elle ne passe pas que dans un certain style de musique. Et c'est ça que je trouve magnifique et je suis tellement touchée d'entendre ça. Et dès que j'entends, complimente quelqu'un de l'univers du chant lyrique, c'est pour moi. Forcément, c'est un compliment, mais qui prend une dimension supplémentaire de par ma formation et par c'est fabuleux. Voilà, je suis très touchée. J'aurais tellement aimé la rencontrer.
Nolwenn Leroy, maintenant, vous étiez un peu au début. J'ai l'impression que vous êtes, moi, je trouve une des premières comme ça qui avait cette chose. Parce que souvent, les jeunes chanteurs de variété, c'était très imité des chanteurs américains. Il y avait quelque chose, une histoire de goût, moi, qui me déplaisait beaucoup. Maintenant, quand de temps en temps je regarde The Voice, je suis frappé. Il y a des phénomènes absolus et des personnalités. On n'a plus l'impression que les voix sont un peu tous sur le même plan, qu'ils ont. Cela dit, tout le monde ne réussira pas une carrière. Selon vous, qu'est-ce qui va faire que un talent qui sera peut-être pas supérieur à un autre, mais va réussir et pas l'autre?
J'aimerais le savoir. C'est sûr qu'il n'y a jamais eu autant de monde, autant de personnes qui souhaitent participer à ces radios crochets, télécrochets. Et c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens veulent se faire entendre, et c'est une bonne chose, et beaucoup d'artistes, et on ne peut que s'en réjouir. Maintenant, c'est vrai que...
Mais c'est un métier.
Oui, et puis bon, comme je le disais, il y a toujours eu beaucoup d'appelés, peu d'élus, et c'est... Qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas, sincèrement, je dirais que... C'est peut-être ce que je dis souvent, le fait de n'essayer de s'inscrire dans aucune mode et d'essayer de suivre son chemin, de tracer sa route et d'avoir... on ne sait pas forcément dès le début ce que l'on souhaite, ce que l'on... Ça s'affine au fil des années et des albums. Mais de savoir là où on ne veut pas aller, ça c'est sûr. Et de rester intègre et de ne pas céder face à un certain entourage. Parfois, lorsque l'on rentre dans ce métier,
il faut résister à certaines tentations,
parce qu'il y a beaucoup de conseils qui viennent d'un peu partout, et il faut réussir à bien discerner et les bons, des mauvais conseils. Et je crois que le plus important, c'est d'écouter cette petite voix intérieure, même si c'est pas ce que l'on écoute à la radio en ce moment, parce qu'à partir du moment où on essaie de suivre une mode, quelle qu'elle soit, ça fait déjà partie du passé, et on est déjà has-been, on est déjà ringard presque. Alors que lorsque l'on fait quelque chose qui vient de soi, on n'aura jamais honte de ce que l'on fait. Lorsque l'on est sincère dans son...
Ça aura peut-être un peu plus de mal à aboutir,
mais
ça durera plus.
Je pense, parce que... et puis c'est surtout qu'on n'aura jamais à le regretter lorsque l'on est sincère et intègre dans ce que l'on présente. On ne regrette jamais ce que l'on a fait. On est toujours, ça fait partie de. Et puis on ne cesse d'apprendre aussi dans ce métier. C'est ça qui est agréable. Mais c'est vrai que j'aimerais avoir encore plus de conseils à donner ou d'explications. Mais je crois que j'apprends encore aujourd'hui. C'est un métier qui est difficile.
Et nous terminons cette émission avec Maria Callas, parce que c'est aussi votre choix,
ah oui.
C'est votre idole avec le fameux air de la Vallée, l'air qu'on entend dans la Diva de Jean-Jacques Benex. Mmh.
Oh,
La Valide de Catalani, Maria Callas, accompagnée par Tullio Serafin.
Et oui, une passion pour la Callas, pour sa vie, pour tout. C'est vrai que j'ai tellement lu, l'artiste que j'admire le plus.
Merci, Nolwenn Leroy.
Merci beaucoup.
D'être venu.
Merci
ce soir.
Pour votre invitation. C'est tellement agréable de pouvoir parler musique. Ça paraît paradoxal, mais ça m'arrive pas si souvent. Parce que j'ai l'impression, c'est vrai, souvent on arrive et puis on parle de tout sauf de musique. Et ici, au moins, du classique, on parle musique. Donc merci beaucoup. Ça fait du bien.
Merci beaucoup. Et merci à tous les auditeurs de Radio Classique pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit. Je vous donne rendez-vous demain avec Dominique Bonnat. Tout de suite, c'est Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.